Notre invité du jour est Frédéric Jourdan, qui est en train de faire muse avec son téléphone portable, une chose qui consomme de l'énergie, qui est cofondateur surtout de Snoot Lab, qui nous accueille donc aujourd'hui. C'est une entreprise toulousaine qui a été créée en 2010 et qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de composants électroniques, le tout dans une philosophie libriste. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ça pourrait faire l'objet d'une future émission. En tout cas, ça vous différencie de bien d'autres épiceries électroniques de par la France et de par le monde. Je dis épicerie parce que vous le voyez pas.
Tu penses à la rue du Languedoc, c'est ça?
mais en tout cas, ici, c'est rempli, en tout cas dans l'arrière-boutique, de petites pièces pleines de machins électroniques qui consomment donc de l'électricité. Et l'électricité, c'est le débat du jour et c'est surtout... le moins consommé d'électricité, le be frugal, comme disent les Britanniques, être frugal, être dans la frugalité énergétique, électronique, électrique, je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est ma première question à notre invité. Donc Fred, tu es électronicien de formation. Qu'est-ce que c'est la frugalité et comment on l'appelle? Est-ce qu'on dit frugalité énergétique, électronique et électrique? Est-ce que c'est des choses différentes?
Alors, moi, j'ai acquis un peu de connaissances en électronique. En fait, j'ai pas une formation d'électronicien au départ. Je suis économiste statisticien.
J'ai mal révisé les fiches. Tu m'as piégé, Latrice.
Tu t'es débrouillé tout seul.
mais je dois confesser que depuis que je suis adolescent, je fais des projets scientifiques et techniques, des micro-fusées, des mini-fusées, des trucs expérimentaux, ou de la Caravelle 0G, enfin l'ancêtre de l'Airbus 0G, voilà. Donc j'ai toujours baigné, je me suis toujours passionné pour les sciences. Ouais, on fait ça, on développe l'électronique, on essaie de faire en sorte que les gens y comprennent et ils acquièrent les notions. Et en fait, je suis tombé dedans un peu par hasard, mais c'est en fréquentant le milieu des hackers toulousains qui m'a ramené dans
le droit chemin.
Dans le droit chemin, voilà, ouais, exactement, dans le droit chemin.
Mais alors du coup, est-ce que toi, de par ton expérience, tu peux nous définir ce qu'est la frugalité énergétique, électronique ou électrique?
Alors en fait, c'est un concept qui est quand même assez compliqué à appréhender parce qu'on pourrait prendre la frugalité électronique sous l'angle strict qui est ça doit être simple et économique et économe en énergie. Donc ça, c'est deux notions qui sont assez compliquées. Le simple, en fait, on est dans un domaine assez technique, donc c'est tout de suite assez compliqué. Enfin, on rentrera dans des détails tout à l'heure. Il y a beaucoup de notions, il faut acquérir un sens critique, une capacité à mettre en perspective des notions qui parfois sont dans des domaines assez différents. Et puis, il faut que ce soit économe, mais c'est économe à quel moment? Donc ça, tout à l'heure, on aura probablement un focus sur le moment de l'économie. Comment on appréhende ça? Eh ben, en fait, on essaie de faire des produits qui vont d'abord avoir une durée de vie assez longue. Donc en essayant de faire des choses de bonne qualité, en prenant des composants de bonne qualité, voilà. On essaie de mettre le plus possible d'astuces techniques, ou par exemple de doubler l'épaisseur du cuivre sur nos pistes électroniques. Et bon, ça permet deux choses. D'abord, ça permet d'avoir un truc un peu plus durable, et puis ça permet aussi d'avoir quelque chose qui peut être des produits qui peuvent être appréhendés par les débutants. Et donc, ils peuvent s'éduquer. Et quand on s'éduque, c'est pour toute la vie, en fait.
Mais au niveau, du coup, de la consommation électrique, parce qu'on était plutôt parti sur cette notion-là, moi, qui n'y connais rien, strictement rien, je le confesse, comment je peux voir si un appareil ou un composant, si tant est que j'allais en acheter, consomme beaucoup, et un rendement... électrique efficace ou élevé, je sais pas. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ces deux notions et comment on peut voir ça quand on n'y connaît pas grand-chose?
Alors, ouais, effectivement, il y a un premier élément qu'on peut toujours voir, c'est aller regarder la consommation électrique en watt-heure. Et en fait, cette première notion, c'est une mesure en fait de la quantité d'énergie consommée par heure par l'appareil électrique. Donc ça, c'est marqué sur toutes les étiquettes, en fait. Donc ça, on peut l'appréhender. c'est la première notion qu'on peut appréhender, et n'importe qui peut l'appréhender, parce qu'un watt sur un sèche-cheveux, c'est le même watt que sur une ampoule, c'est le même watt que sur un ordinateur, mmh. ou un mixeur, ou what else soit. Donc ça, c'est déjà, ça, c'est un truc qu'on peut appréhender, et n'importe qui peut l'appréhender. Mmh. Voilà. Le signe, c'est le fameux W, ou W majuscule avec un petit H à côté, donc qui veut dire watt-heure par heure. Donc ça, c'est la grandeur absolue de l'énergie. Après, il y a un autre élément qu'il faut aller regarder quand on achète des appareils électriques, mais qui n'est pas sur l'étiquette. Et donc, ça demande un peu d'aller chercher dans le manuel, d'aller chercher un peu plus d'informations. C'est le rendement énergétique, et notamment sur les alimentations qu'on utilise pour alimenter tous nos équipements. Les alimentations, elles ne sont pas forcément toutes aussi efficaces. Mm-hmm. Des alimentations de bonne qualité, elles vont être à des rendements de 80 ou de 90%, mais forcément, elles vont coûter plus cher. Des alimentations de moins bonne qualité, dont le first price qui arrive made in China et qui, en fait, est surtout un radiateur électrique, en fait, il va avoir un bas rendement et du coup, on va surtout brancher son équipement pour chauffer la pièce. Parce que l'énergie qui n'est pas utile à l'équipement, l'ordinateur ou je sais pas, la table de mixage, la lampe, etc., c'est transformé en chaleur. Donc c'est perdu. Enfin, l'été, c'est perdu.
Ok. Mais alors, par exemple, deux produits qui consomment 15 watt-heure, s'il y en a un qui a un rendement moins élevé, est-ce qu'au final, il va plus consommer du coup parce qu'il perd plus d'énergie?
Ouais, il va émettre plus d'énergie. Il va être moins efficace énergétiquement.
D'accord. Donc,
il faut. Et généralement, c'est un signe de qualité aussi. C'est-à-dire que les équipements qui sont à bas rendement sont des équipements de moins bonne qualité. Mm-hmm. Obtenir un bon rendement sur une alimentation électrique, ça veut dire mettre des bons composants, ça veut dire faire un bon design, mm-hmm. Ça veut dire y passer du temps humain d'ingénierie, et ça coûte cher. Et ça veut dire que. Ce qu'on va mettre dans la qualité du design, dans la qualité des composants, en fait, c'est une première approche de la qualité globale du produit. Et donc, c'est un produit de bonne qualité, il va durer plus longtemps. Enfin, sauf si on fait un court-circuit. Mais bon, ça.
Aujourd'hui, on en est où globalement? Est-ce qu'on est plus dans des objets qui consomment à fond et qui ont des rendements dégueulasses? Ou est-ce qu'on est dans le contraire, donc du bon, donc, c'est-à-dire des objets, des machines qui consomment peu ou le moins possible et qui ont des bons rendements, ou est-ce qu'il y a de tout et n'importe quoi?
Il y a vraiment de tout, et en fait, il ne faut pas imaginer que le monde il est uniforme et simple. En fait, il y a. Alors, moi, on est une boîte d'électronique, donc on est aussi des commerçants, donc on a aussi une approche économique du truc. Et donc, si je peux introduire une toute petite notion d'économie qui s'appelle les segments de marché ou les groupes de clients, en fait, ça dépend vraiment des marchés et des clients auxquels on s'adresse. Si on est sur du bidouilleur qui veut acheter du prix à tout prix. Et qui veut acheter des choses pas chères, hein, voilà, ce que moi j'appelle les chasseurs de centimes, en fait ils vont pas acheter des trucs de bonne qualité, ils vont acheter des trucs chinois qui vont mettre le feu à l'appartement, etc., qui ont un très mauvais rendement énergétique. En revanche, si on s'adresse plutôt à des gens qui vont faire de belles installations, qui aiment des choses un peu durables, qui mettent de la valeur en fait sur ce qu'ils construisent ou sur ce qu'ils utilisent, à ce moment-là, on va plutôt avoir des produits de bon rendement et de bonne qualité. En fait, ça dépend de chaque marché, en fait.
Mmh. Mais en électronique, le beau est synonyme de frugalité?
Le beau est synonyme de frugalité, oui, parce que en fait, on discutait tout à l'heure en préambule à l'émission d'un fameux téléphone qui est le seul qui peut être ouvert et sur lequel on peut trouver de belles inscriptions gravées au laser, des choses en fait que normalement personne ne voit. Et en fait, qui sont belles pour l'électronicien, parce que quand on va regarder ces composants-là, on se dit « Ah ouais, ils ont poussé le détail, hein, et en fait, ils ont pensé aux esthètes.
Mmh. » On renverra les auditeurs vers un lien, un article qui nous a servi pour la préparation, où en fait, quelqu'un avait ouvert l'alimentation d'un Macintosh, s'était posé la question « C'est incroyable de complexité !» Et il a ouvert à côté une alimentation no-name à $12 au lieu d'être à $90 chez Apple, et là, on se dit « Ah oui, ok, il y a vraiment danger sur la manière dont on le construit.
Oui, mais il y a eu dans notre écosystème Arduino et Raspberry, il y a eu des exposés, notamment un qui a été fait par Massimo Banzi il y a 2 ans sur les alimentations et sur pour essayer de dire à la communauté prenez conscience de ce que vous faites, et où en fait on voyait des alimentations pas chères, hein, un truc à 3 euros acheté sur une grande plateforme de vente en ligne. Et en fait il n'y avait aucune isolation électrique, et donc c'était vraiment la loterie, et avec potentiellement la possibilité de mettre le feu à son installation électrique, quoi. Enfin, voilà.
Très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, Arduino, qu'est-ce que c'est ?
Alors Arduino, c'est une carte électronique qu'on programme avec un ordinateur en mode très simple, c'est-à-dire dans un langage de programmation vraiment simplifié. En gros, il y a 2 boutons, hein, le bouton play et le bouton enregistrer le programme. Et ça permet en fait de créer des interactions, de créer de l'interaction avec des LED, avec des petits moteurs, avec des choses comme ça. Initialement, ça a été pensé pour que des étudiants dans le domaine du design puissent mettre de l'interactivité dans les installations qu'ils proposaient dans leurs travaux de fin d'études, par exemple. Donc aujourd'hui, c'est très utilisé dans le milieu artistique, mais aussi dans le milieu scolaire. Aujourd'hui, on fait plus... Enfin, moi, j'ai 43 ans. Aujourd'hui, on fait plus de pâte à modeler, de couture ou de découpe de bois. En fait, on fait de l'électronique au collège, quoi.
Donc
nous, non, c'est génial. Et je vois, enfin, pour la petite histoire, on accueille une stagiaire de 3e qui fait son stage de découverte de l'entreprise, et on lui a donné le starter kit Genuino Arduino, et en fait elle s'éclate, et aujourd'hui toute l'après-midi elle nous a joué la musique de R2D2. Donc c'était voilà, elle a découvert.
C'était le cadeau empoisonné.
C'était le cadeau empoisonné, mais
t'as fait aussi le même coup à actuellement une intervenante chez vous qui est sur la com, qui donc elle est pas du tout électronique.
Ah oui, elle n'est pas geek, et oui, on lui a appris à souder, on lui a mis les mains dans les composants, et ouais, pour qu'elle découvre tout ça, normal.
Et donc on était avec Fred de Snoot Lab, et on parlait frugalité énergétique, et on se demandait du coup quelle était la tendance actuellement, est-ce que les gens demandent de la frugalité dans les composants, et depuis quand ils demandent ça?
Oui, enfin maintenant, nous dans... Alors... On s'adresse à plusieurs publics, à la fois des makers, donc qui sont généralement des makers, des hackers, qui sont généralement des particuliers passionnés d'électronique, mais aussi à des entreprises. On prend le meilleur des deux, et on essaie de pousser des projets qui rassemblent ce qui est intéressant dans ces deux milieux-là, et on fait croiser ces deux milieux-là. Chez le particulier, la demande de frugalité électrique, c'est-à-dire de basse consommation, etc., elle est assez peu présente. Mais elle est opportunément utilisée. Alors que dans les entreprises, cette demande de basse consommation, pour faire plus simple, elle est très demandée maintenant. Nous, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus dans les produits qui sont utilisés par nos makers et dans les demandes des startups ou entreprises qu'on accompagne, on requiert la basse consommation. En fait, pour les entreprises, c'est pour faire des produits qui soient autonomes, c'est-à-dire virer les fils. Contrairement à ce studio, en fait, on a les bureaux de la société sont envahis de studios.
Et faire de la radio, c'est d'abord du fil.
C'est d'abord faire du fil. Donc les entreprises veulent virer tout ce qui est fil et essentiellement les fils d'alimentation. Et les particuliers, les makers, ils voient de nouveaux usages possibles. En fait, on peut maintenant aller monitorer la température de ses tomates au fond de son jardin. Alors qu'avant, c'était simplement réservé aux professionnels.
Mais grosso modo, vous qui avez été créé en 2010, donc la boîte Snoot Lab, il y a eu un changement, ou c'était dès le début de 2010, ou c'est un peu après que la vague de la frugalité est venue?
Alors moi je le place plus en 2013. Alors en fait, si on essaie de réfléchir à pourquoi, enfin d'où ça vient et pourquoi ça serait autour de 2013, hein, en fait, ça pourrait être pour une très bonne raison, c'est-à-dire un engagement, un positionnement en faveur d'une économie d'énergie,
COP 18,
etc. COP 54, enfin, etc. En fait, c'est juste que le prix des composants basse consommation a tellement baissé que c'est devenu plus intéressant d'utiliser ces composants-là plutôt que les anciens composants, si je puis dire.
C'est quoi la différence de prix maintenant ? Elle existe toujours ou c'est au même prix ?
Maintenant, c'est au même prix. C'est-à-dire qu'un microcontrôleur 8 bits qui a 15 ans d'âge, il est au prix d'un microcontrôleur 32 bits qui est très basse consommation et qui permet de faire énormément plus. C'est-à-dire, c'est quelques euros, quoi. Enfin, ça dépend bien sûr des volumes. Mais,
et on est passé de combien à combien, du coup, pour les trucs basse consommation ?
Pour les trucs basse consommation, on est passé sur des composants à 10 euros pièce à quelque chose comme 2 euros quand on les achète par 1000.
Et qu'est-ce qui a fait que ça baisse ? C'est qu'on a trouvé des nouveaux moyens de les produire ou que la consommation a explosé, je sais pas, du fait des téléphones ou...
En fait, il y a les deux éléments. Il y a effectivement la demande qui est très importante venant des téléphones et venant de tous les gadgets qu'on peut avoir dans nos poches. Hein. C'est aussi les players audio qu'on peut avoir ou les tablettes pour occuper les enfants dans les voitures, dans les embouteillages, etc., etc. Ou les GPS, etc. Donc il y a un volume énorme qui a été créé. Puis il y a aussi que c'est des composants qui sont fabriqués, qui sont beaucoup plus petits, qui sont beaucoup plus économes en termes de matériaux. Nécessaires pour les réaliser. Et donc, en fait, c'est ce processus de miniaturisation et d'économie aussi de matériaux qui amène à cette baisse de coûts.
Ok. Est-ce qu'il y a aussi un progrès dans les algorithmes et dans l'utilisation de ces machins électroniques, voilà, le mot m'échappe, et qui fait que l'électricité est mieux utilisée ou qu'on utilise tout ça plus précisément, plus efficacement?
Ouais, alors on vit dans un monde où il y a deux tendances. Il y a la tendance où en fait on a une espèce de logorée de code et on pisse du code au kilomètre en faisant des espèces de trucs où il faut des gigaoctets d'espace pour compiler, je ne sais, des bidules. Enfin, moi je suis de la génération des demo makers où on codait en quelques kilos des vidéos 3D époustouflantes. J'ai jamais su le faire, mais j'étais admirateur de ça. Aujourd'hui, en fait, on ne sait rien faire avec un petit ordinateur et quelques mégaoctets. Donc il y a ce mouvement-là, mais il y a aussi le mouvement qui consiste à dire il faut qu'on soit économe en énergie et donc il faut qu'on code bien, qu'on ait des stratégies en fait, d'utilisation des composants pour baisser la consommation. Typiquement, si on veut faire quelque chose qui va fonctionner pendant 18 mois ou 24 mois sur quelques piles bâtons standards, et qu'on fait un objet communicant, on est dans l'ère de l'IoT, ou du M2M, truc connecté, en fait il faut adopter des stratégies assez évoluées sur les cycles d'écoute d'émission entre les objets puisque les objets parlent et à chaque fois tout ça consomme énormément d'énergie. Et donc ça demande en fait vraiment d'affiner son code, de faire une recherche vraiment difficile c'est de l'algorithmie et en fait c'est pas juste du code qu'on pisse, c'est de l'algorithmie, donc c'est vraiment c'est du jus de cervelle. Voilà, c'est ce qui fait la valeur de nos ingés, de nos codeurs, de nos chercheurs ici, quoi.
C'est-à-dire que concrètement, si on utilise une petite image, avant, on entrait dans un bâtiment, on l'illuminait en entier, alors que maintenant, on va allumer juste la pièce qu'il faut et qui est utile pour l'utilisation.
Ouais, il y a ça. Il y a en fait de synchroniser les différents éléments, et effectivement, de détecter s'il y a des gens, il n'y a pas des gens. On va monitorer la clim, on va allumer ou pas allumer l'éclairage, etc. Bien sûr, oui. Ouais, tout à fait. C'est vraiment des choses qu'on fait maintenant, ça. Enfin, c'est entre guillemets la base, maintenant.
Petit aparté, Xavier, tu me parlais de l'algorithme et de l'intelligence des batteries d'une certaine marque d'ordinateur.
Oui, tout à fait, oui.
Qui m'a assez surpris, peut-être qu'on peut
c'est justement ce dont on parlait, donc l'alimentation de ces ordinateurs à la pomme, où tu as une puissance de calcul qui est l'équivalente en fait de la première génération d'iPod à l'intérieur, et où en fait il arrive à discuter avec l'ordinateur, donc il y a un bus de données, il y a un dialogue qui se fait entre la prise électrique et l'ordinateur pour dire « Oui, alors j'accepte tel voltage, etc. Je suis de telle puissance. » Donc le truc va monter, le transfo va monter progressivement le voltage jusqu'à ce qu'il arrive à un certain niveau. Il monitorise la batterie et tout le reste. Et ça m'a vraiment impressionné puisque voilà, justement l'ordinateur que j'ai qui n'est pas de cette marque-là, lui, quand il est chargé, une fois qu'il est chargé, il chauffe. Or, le pire ennemi des batteries, c'est le chaud. Et c'est là où les batteries peuvent prendre très, 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 très cher. Donc des fois on se dit ben c'est vrai que il y a certains sur le matériel, ils vont beaucoup plus loin. Ils pensent plus à la durabilité, mais en fait c'est le syndrome Bosch, c'est est-ce que ça continue à se vendre alors que c'est durable mais beaucoup plus cher que les autres.
OK.
Ça, on mettra le lien, bien évidemment, sur l'émission.
Et du coup, ça me permet de rebondir sur un truc dont on parlait hors émission et qui me paraît intéressant de réaborder dans l'émission, c'est qu'il y avait deux familles en fait, d'objets, les objets comme les téléphones qui consomment, et on s'y habitue et c'est normal de le rebrancher toutes les deux heures, et une autre famille plus économe. Et est-ce que ça, c'est une idée juste ou qui va tendre à... J'ai encore perdu mon mot. À s'aggraver, voilà.
Ouais, enfin, nous, on est. Maintenant, on a été bien éduqués. On accepte qu'un portable nécessite d'être chargé chaque jour. On le voit, il y a beaucoup de produits qui sortent qui sont des batteries annexes, hein, qui apportent d'autres fonctionnalités. En fait, on est en train de nous conditionner pour accepter le fait que la batterie du téléphone ne doit fonctionner. On n'en attend pas plus que de 4 heures d'autonomie. On a l'impression d'être en phase dans une phase de conditionnement à ça. Dont acte, très bien. Enfin, pour la petite histoire, en gros, un détecteur de fumée un peu évolué aujourd'hui, il y a un certain nombre d'années d'aller sur la Lune. C'est la même puissance de calcul. On est dans des déphasages complets entre ce qu'on peut faire avec les puissances et les énergies dont on dispose et ce qu'on en fait nous aujourd'hui. Donc il y a un mouvement là-dessus, c'est entre guillemets la bataille est perdue. Et il y a un autre mouvement autour de tout ce qui est objet ambiant connecté. Qui ont pour vocation d'être oubliés d'une certaine façon, et donc eux, il faut être vraiment dans la finesse énergétique et dans la finesse de gestion de l'énergie pour que tous ces objets deviennent de plus en plus oubliés, autonomes, et nous livrent le service qui est utile, quoi. Donc ça, c'est tout ce qui est réseau de capteurs ambiants, à la fois dans tout ce qu'on appelle la smart city, smart home, le monitoring énergétique, en fait, etc. Quoi.
Et la frugalité, elle se joue dans la consommation en elle-même de chaque objet, mais elle se joue aussi dans le transport de l'énergie. Donc est-ce que là, il y a des choses à faire ou ce qu'on est très bien actuellement et que ce qui se fait ?
C'est
pas tout à fait ton domaine, mais
ouais, c'est pas tout à fait c'est pas notre domaine, mais en fait on peut pas s'empêcher de le considérer et de l'appréhender, ne serait-ce que en tant que citoyen. Oui, transporter de l'énergie, ça consomme de l'énergie, parce que c'est beaucoup d'énergie qui est dissipée dans les câbles. Alors, on pense à l'électricité, au réseau d'alimentation urbain ou en campagne, en fait. On dissipe énormément d'énergie et aujourd'hui on voit arriver des stations de génération, des stations de stockage et des stations de génération d'énergie à l'échelle d'une maison, à l'échelle d'un immeuble, à l'échelle d'une petite entreprise type entreprise de bureau. En fait, ça consomme pas beaucoup. On n'est pas sur l'industriel. Hein. Je reviens sur l'histoire des segments. Il y a des segments, en fait. On peut pas tout considérer. Tout n'est pas pareil. Mmh. Donc une cimenterie, bien évidemment, elle sera pas sur panneau solaire, encore que peut-être un jour. Mais des bureaux comme ici, on pourrait très bien fonctionner sur panneau solaire.
Et sachant... pas perdre d'énergie du coup à ramener à
et donc
ramener
voilà
ici,
on a plus enfin cette capacité à générer localement l'énergie fait que on peut économiser la perte d'énergie en ligne sur les lignes d'alimentation qui nous permettent d'être reliés au réseau. Et en fait, ça, c'est, il y a un énorme enjeu pour notre société à penser l'énergie non plus comme un réseau maillé depuis la centrale qui génère l'énergie jusqu'à son utilisateur, mais peut-être des réseaux atomisés, des unités qui soient autonomes, etc. Et où, en fait, on va beaucoup moins consommer d'énergie parce qu'on consommera l'énergie qu'on est capable de transformer et on ne la perdra pas à la transporter chez son voisin très éloigné.
Ça, c'était l'énergie décentralisée. Ça a été très en vogue en 2006-2007 quand on a imposé aux grandes entreprises énergétiques de racheter aux particuliers l'énergie en excès qu'ils produisaient. Et il y a eu énormément d'entreprises qui sont lancées dans l'installation de panneaux solaires et on a vu quand même pas mal d'aberrations à ce niveau-là. Donc est-ce que vous aussi, en parlant du prétexte écologique de l'économie d'énergie et tout ça, n'y a pas aussi des effets d'annonce qui sont complètement dévalorisés par le fait, je vais dire, de malfaçon.
Si, complètement. Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, c'est un marché qui est biaisé parce que c'est un marché qui est subventionné avec des tarifs qui sont administrés. Ça, c'est le premier élément. Et donc, on a un biais économique qui est énorme. Et le deuxième élément, c'est un biais juridique qui fait qu'on ne peut pas, ou très difficilement, devenir une installation totalement autonome et déconnectée du réseau. Et ce qui fait que ça ne donne pas l'opportunité de faire la démonstration de la capacité à être autonome en énergie. Donc, en fait, les exemples qu'on a pu voir qu'on a pu voir sont pas des exemples. Voilà, il y a des éléments qu'il faut rajouter dans l'analyse qui sont certes, je le regrette, un petit peu complexes, mais on peut pas considérer que ce qui a été fait jusqu'à maintenant soit une preuve de l'impossibilité de développer ça. Moi, je peux pas donner de précision sur exactement où ça va se faire et avec quels industriels, sauf des compagnies worldwide comme Tesla, Samsung ou d'autres. Mais il y a déjà des projets pour installer des unités autonomes de stockage, de génération et de stockage d'énergie sur des bâtiments où il y a plusieurs personnes. Et ça, c'est pas pour dans 50 ans, hein, c'est pour 2016-2017, et c'est en région Aquitaine, il y a des projets, quoi.
Vous écoutez Radio FMR, c'est Carré Petit Utile, CPU.
Et on attaque la dernière partie de cet entretien, toujours avec Fred Jourdan de Snoot Lab. On va un peu rêver et penser à l'avenir, à ce qui nous arrive technologiquement. Et moi, j'y connais encore pas grand-chose. Donc, est-ce que les machines, les objets, les composants électroniques qui vont arriver seront encore plus basse consommation que ceux actuellement ? Faites-nous rêver.
Ouais, enfin
ou pas d'ailleurs.
Ouais, ou pas. Enfin si, oui, je pense que ça sera basse consommation de plus en plus. On arrivera à devenir de plus en plus simple à utiliser et économe en énergie, donc frugal. Enfin, c'est un mouvement de fond, c'est comme ça. Enfin voilà, c'est comme l'ère de la communication, on ne peut pas revenir en arrière. C'est comme ça, notre société avance et notre monde avance.
Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, un autre portable, on disait tout à l'heure que c'est des trucs qui bouffent encore de l'électricité. Est-ce qu'on aura un jour des portables qui revivront encore une semaine sur batterie autonome ? Est-ce que techniquement, c'est possible de faire des choses
comme
ça ?
Alors, en fait, y a un certain nombre de projets. Le plus emblématique, le plus connu, c'est le téléphone ARA de Google, et en fait, qui parie sur le fait qu'on puisse remplacer un certain nombre de pièces, et donc forcément de recycler par partie d'augmenter par partie son téléphone, et donc quelque part en fait prolonger sa durée de vie. Il y a d'autres projets, j'ai entendu parler d'un projet là.
Il y a Fairphone aussi.
Oui, Fairphone, voilà, exactement. Qui est dans le pipe. Mais bon, il y a eu des initiatives comme ça, comme OpenMoco, qui n'était pas exactement sur la même chose, mais qui était sur un téléphone libre et open source, enfin open source et utilisant du logiciel libre et sous Linux.
Mais ça, c'est pas la même chose. Je veux dire, ça, c'est la durabilité des composants et pouvoir utiliser son téléphone plus de 3 ans, par exemple, plus de 2 ans. Mais ça veut pas dire qu'il sera moins consommateur et plus frugal.
En fait, pouvant changer des parties de son appendice numérique, on pourra choisir des parties de plus en plus efficaces, hein, ou de plus en plus économes. Donc, quelque part, en fait, de réduire l'empreinte de ce téléphone-là, ça pose quand même la question après des circuits de recyclage ou de réutilisation de tout ça. Ça pose aussi quand même la question d'un truc qui est extrêmement compliqué en électronique, qui s'appelle la connectique, et qui est un enfer chez l'électronicien. Donc il y a ça qui est plutôt un bon présage ou quelque chose qui nous fait bien avancer. Ça va être frugal, donc je reviens sur la notion de simplicité. Les choses vont être de plus en plus simples à utiliser. Ça va être des réseaux de capteurs ambiants, ça va être des réseaux d'actionneurs ambiants, c'est-à-dire sur lesquels on n'aura plus besoin, nous, d'agir très concrètement, mais qui exécuteront un certain nombre de choses pour nous. Mais ça, ça veut dire qu'il faut le balancer. Enfin, pour moi, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Si les choses deviennent plus simples, ça veut dire que nous, humains, il faut qu'on devienne de plus en plus attentif et intelligent et qu'on soit de plus en plus exigeant sur ce qu'on attend de tous ces réseaux ambiants de capteurs, d'actionneurs, etc. Et notamment sur la dimension de liberté individuelle, de sécurité des données, de droit à l'oubli, de etc. etc. Bon, enfin, c'est un volet qui est assez énorme, mais je veux dire, voilà, la simplicité électronique doit s'accompagner d'une éducation et d'une appropriation de ces technologies de plus en plus développées et de plus en plus avancées pour tout le monde. Hein, c'est-à-dire, pour moi, le futur, il passe par l'éducation, il passe pas par plus de smartphones. Hein.
Bah voilà. C'était un mot de la fin.
C'est un peu sec, mais voilà.
Juste une question avant que donc on passe à la suite, à d'autres rubriques. Quel est, vous, au sein de Snoot Lab, le projet qui vous a vraiment fait plaisir, sur lequel vous avez pu contribuer, soit en tant que fournisseur, soit en tant que partenaire, sur justement une meilleure gestion d'énergie?
Alors, on a fait plusieurs trucs. On a fait un truc en 2010, avec la région Bretagne et la ville de Rennes. Et c'était dans le cadre du... c'était Cap 21. Donc, c'était les programmes sur la mesure de la consommation énergétique et l'objectivation, en fait, de l'impact écologique des structures publiques. Et donc, on avait construit un kit do-it-yourself de monitoring énergétique des bâtiments publics. Donc, assez compliqué. Donc, kit do-it-yourself, ça veut dire qu'à assembler soi-même, de monitoring énergétique des bâtiments publics, c'est-à-dire de mesure de la consommation d'un stade, d'une mairie, d'une cantine publique. Et l'idée, c'était de faire des ateliers où des citoyens, donc des habitants du quartier, soudent les éléments qui vont permettre de mesurer la consommation des installations publiques qui sont dans leur quartier. Et donc, en fait, on objective le citoyen qui vit localement dans ce quartier-là, il sait, parce qu'il l'a fabriqué, parce qu'on lui a expliqué comment est mesurée la consommation énergétique. Et cette consommation, elle est remontée sur un portail web public et qui permet, en fait, à tous les citoyens de la ville, de la région, etc., de connaître l'impact environnemental du stadium.
Plus, il y avait éducation et en même temps démystifier, justement, et couper court, justement, aux rumeurs. Non, mais les chiffres sont truqués. Ben là, non.
Exactement. Voilà, c'était vraiment ça, la dimension.
Ça, c'est en cours.
Alors ça, c'était un projet de 2010 qu'on faisait avec une société. En fait, nous, sur la partie électronique, encore une fois, je reviens, on est commerçants. On est une vraie société privée, etc. Et en fait, nous, on avait bien dimensionné notre prix. Et donc, on ne perdait pas d'argent. Et la société avec qui on travaillait là-dessus et qui s'occupait de la partie justement accompagnement, elle avait mal calculé ses prix et donc elle a pas pu suivre. Et donc le projet s'est arrêté. On a voulu le libérer et le mettre en ligne et pour que n'importe qui puisse se l'approprier. On l'a pas fait parce que mettre en ligne un projet, c'est pas abandonner des sources ou des schémas, c'est accompagner une communauté pour que tout le monde puisse se l'approprier, ou en tout cas ses premiers ambassadeurs. Et donc j'ai fait le choix de pas libérer les sources de ce projet-là, parce que notre société, elle a besoin, comme elle embauche des gens, elle paye des gens pour de vrai, etc., avec du vrai argent payé par ses clients. Je voulais pas, en fait, complètement écrouler la société sur ce projet-là. Bon, ça, c'était un projet. Après, on a fait des projets avec des artistes où on représentait par des bulles de savon les fluctuations boursières, et on a pensé que c'était super intéressant et que ça permettait de mieux appréhender la volatilité boursière, etc., avec des bulles de savon. On a beaucoup aimé ça.
C'était exposé au dernier THSF.
Bon. Merci beaucoup, Fraise, pour toutes ces informations.